sermon donné par M. Gerald Weston le 25 juillet 2020. Son titre, La foi pour être une lumière dans un monde de ténèbres. Salut à vous tous. Je souhaite que vous ayez un merveilleux sabbat où que vous soyez. Je ne vous connais pas tous par vos noms. En fait, je ne vous connais pas tous. Je ne vous ai pas tous rencontrés, mais j'ai fait la connaissance d'un certain nombre d'entre vous ces derniers mois, en particulier au cours des deux premiers mois de cette année 2020, lorsque je suis allé à Mexico, puis à Mississauga, au Canada, où j'avais été pasteur auparavant. Soit dit en passant, nous avons maintenant de nouvelles personnes à Mississauga. Ensuite, nous sommes allés aux Philippines, à Mae Sot, en Thaïlande, ainsi que dans de nombreux endroits en Afrique du Sud, en particulier au Lesotho. J'ai eu récemment l'occasion de voir des photos de certains d'entre vous, et c'était très gratifiant, car cela réveilla en moi des souvenirs qui alimenteront mes prières. Je vous apprécie tous, je vous aime tous, ceux que j'ai rencontrés, de même que ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer. Je vous envoie donc à tous mes salutations. Avant de débuter ce sermon, on m'a demandé de vous faire ces quelques annonces juste pour les mettre un peu plus en relief. La première est que nous voulons cette année avoir une chorale virtuelle, et cela pour tous nos sites de fête. Et nous aimerions beaucoup que vous nous apportiez votre contribution pour ce projet, même si vous ne chantez pas tellement bien, car nous pouvons toujours baisser votre voix et vous mélanger avec tous les autres pour produire un bruit joyeux. Alors, assurez-vous de nous envoyer votre enregistrement dès que possible. Nous en avons vraiment besoin sans tarder. Si vous avez des questions, parlez-en à votre ministre, et je suis sûr qu'il saura vous donner des informations quant à la manière de procéder. L'autre annonce est pour vous informer que nous avons encore quelques places disponibles pour de jeunes boursiers qui voudraient s'inscrire au programme d'éducation que nous allons une fois de plus offrir à la rentrée d'automne ici à Charlotte. Vous serez logés dans un dortoir avec d'autres jeunes boursiers, et les filles seront logées non loin de là dans leur propre dortoir. Vous savez, c'est drôle, mais il y a des années où nos groupes sont majoritairement composés de garçons et seulement de quelques filles. Et cette année, c'est tout le contraire. Alors les gars, si vous voulez savoir où sont les filles cette année, c'est ici à Charlotte. Voilà, l'invitation est lancée. Vérifiez seulement auprès de votre ministre ou appelez M. Jonathan McNair qui se fera un plaisir de vous aider. Lorsque le père de M. Jonathan McNair avait adressé la parole à M. Herbert Armstrong, à la séance d'ouverture de l'Ambassador College, il avait été recruté par celui-ci sur le champ. Nous nous efforcerons d'agir de même et tâcherons de recruter le plus grand nombre d'entre vous lorsque vous serez sur place. Ne manquez pas une si merveilleuse opportunité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aimerais profiter de ce sermon pour non seulement saluer chacun d'entre vous dans le monde entier, mais aussi, et tout spécialement, nos adolescents et nos moniteurs du Living Youth Program, qui se trouvent présentement au Texas. C'est aujourd'hui leur dernier jour. Ils retourneront chez eux demain. Ensuite, dans une semaine, débutera au Wisconsin le camp d'aventure pour nos adolescents. J'ai pu participer au camp d'aventure l'année dernière. Cela incluait un voyage en canoë dans un environnement sauvage, comme il y en a beaucoup au Canada. C'était une très belle région, et j'ai beaucoup apprécié tout cela. Et je suis persuadé que nos adolescents vont l'apprécier aussi. Quoi de plus réjouissant, en effet, que d'être en plein air et de faire du canoë en compagnie d'autres jeunes. Frères et sœurs, nous vivons assurément dans un monde de ténèbres. Et cette année, dans le cadre du Living Youth Program au Texas, on avait choisi pour thème cet extrait de Matthieu 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et nous le sommes. Si nous y croyons, cela signifie que nous sommes vraiment la lumière de ce monde. Nous sommes une lumière dans un monde plongé dans de profondes ténèbres. Et ce monde s'assombrit de jour en jour. Veuillez à présent vous reporter à 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nos jeunes du camp d'été ont peut-être étudié bien des versets bibliques sur le sujet que nous allons aborder. Mais peut-être pas tous. Je ne vais toutefois pas me contenter de répéter les versets qu'ils ont déjà vus. Mais j'ai pensé que celui-ci serait un bon début pour nous. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Paul leur dit en essence, « Je n'ai pas besoin de vous écrire à ce sujet, mais je vais le faire quand même. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » On ne parle pas ici d'un enlèvement de véritables chrétiens au ciel, mais d'un événement qui se fera de manière inattendue. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il viendra un moment dans le futur où il semblera que les problèmes de l'homme ont été résolus, et c'est à ce moment-là que le monde va s'effondrer. Versets 4 et 5 « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Cela souligne le fait que nous ne sommes pas plongés dans les ténèbres de ce monde. Et pourtant, ce monde n'a-t-il pas beaucoup d'attrait pour nous? Et n'est-il pas aisé de nous laisser séduire par lui? Par ailleurs, n'est-il pas facile de penser que nous pouvons changer ce monde? Je sais que M. Manson a parlé de cela. C'était, je crois, lors de son premier cours sur la façon de mener une vie chrétienne. Il nous exhortait alors d'être des lumières pour le monde, de ne pas nous laisser piéger par les voies de ce monde, mais d'être un exemple pour les autres. Je vais aujourd'hui aborder ce thème de notre programme Living Youth, où il est question d'être la lumière du monde. J'aimerais vous proposer deux questions d'importance capitale que chacun d'entre nous devrait considérer à cette époque de l'histoire de l'humanité. Ces questions sont cruciales. Les réponses à ces questions peuvent sembler assez évidentes, mais, vous savez, il est parfois plus facile de comprendre la réponse que de la vivre, de la mettre en pratique. Ainsi, quand tout va bien et qu'on mène une vie insouciante, on ne se pose pas trop de questions. C'est seulement quand on est confronté à des problèmes qu'on devra parfois répondre à ces questions, se les poser et y répondre. En fait, nous devrions nous les poser et y répondre en tout temps, mais il y aura des situations où cela deviendra impératif. Voici la première question. Ai-je la foi de croire en Jean, chapitre 18, verset 36? Jésus comparaissait alors devant Pilate pour être jugé. Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce temps. Si cela avait été le cas, ses disciples auraient combattu pour lui préserver son statut. Mais il a ajouté qu'il n'avait pas besoin de leur aide, que ce n'était pas le bon moment. Dans le même ordre d'idées, voyons aussi ce passage important des Écritures qui se trouve dans Daniel chapitre 4. Nous le lisons à l'occasion et nous y trouvons beaucoup de choses. Il y est notamment question de ce songe de Nebuchadnezzar. Mais y voyons-nous une possible application à notre vie? Au verset 17, Daniel dit, Daniel 4 verset 17, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi nous avons certains types de dirigeants dans ce monde, la parole de Dieu nous le révèle. Oui, il y est dit que c'est Dieu qui établit tel ou tel dirigeant à la tête des nations de ce monde. Il va peut-être parfois laisser les choses aller leur propre cours, mais quand c'est important, c'est lui qui intervient et veille à ce que certains individus accèdent aux postes clés et d'autres pas, à moins qu'il ne permette à Satan de le faire. Nous ne savons pas comment il procède, mais c'est lui qui est en contrôle de la situation. C'est sa volonté qui s'accomplira. Et vous savez, c'est pour cela que nous ne votons pas, car après tout, nous ne savons pas qui Dieu veut au pouvoir. Cette année, aux États-Unis, nous allons avoir une élection. Et il y a ceux qui sont très pro-Trump et ceux qui sont en faveur du Parti démocratique de Joe Biden. Il y a tout juste 6 mois, M. Trump avait l'air d'avoir le vent en poupe. En effet, il y a 6 mois, sa réélection semblait assurée. Et puis, regardez ce qui s'est passé ensuite. Vous savez, si Dieu veut changer les choses, il n'y a rien à son épreuve. Il peut changer la situation en un clin d'œil. Il peut donner libre cours à Satan pour qu'il change les attitudes des gens. C'est Dieu qui, en fin de compte, a le contrôle de toute situation. Si tel est son désir, il peut faire tomber ce pays ou n'importe quel autre pays, voire le monde entier, en permettant simplement que tel ou tel dirigeant accède au pouvoir. Nous ne pouvons savoir comment il procédera, mais il le fera, et c'est pourquoi je me garderai bien de voter contre le Christ. Voilà pourquoi je ne vote pas. Je n'ai jamais voté et ne le ferai jamais. L'idée ne m'en viendrait même pas. Croyez-vous vraiment que Dieu a besoin de votre aide pour accomplir sa volonté? Cela dit, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir foi en Christ et ils vont aller voter en faveur de leur candidat favori dans l'espoir qu'ils pourront ainsi sauver l'Amérique. Peine perdue. Comprenez bien que ce sont nos péchés qui provoqueront notre chute. C'est à cause de notre transgression de la loi de Dieu que cela va arriver, et cela, peu importe qui est au pouvoir. Ce sera Dieu qui veillera à ce que cela se produise. Tournons-nous maintenant vers Philippiens chapitre 3, un autre passage bien familier des Écritures. Mais y croyons-nous? Avons-nous la foi que ce que Dieu dit est vrai? Philippiens 3, versets 20 et 21. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. N'est-ce pas ce que nous espérons tous, frères et sœurs? Notre vraie citoyenneté est au ciel. Mais cela ne signifie pas que la récompense des saints sera de vivre au ciel. Certes, nous attendons avec impatience le Sauveur, mais c'est lui qui viendra du ciel pour nous rejoindre. Lorsque je vivais en Angleterre il y a quelques années, j'avais à la fois la citoyenneté américaine et la citoyenneté canadienne, même si je n'étais ni aux États-Unis ni au Canada à l'époque. J'étais alors en Angleterre. C'est donc au ciel que notre citoyenneté nous est réservée. Nous sommes des membres du royaume de Dieu à venir. Notez aussi ce qui est dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, un autre de ces versets qui nous sont très familiers. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes donc les ambassadeurs d'un royaume très différent. Les ambassadeurs ont bien sûr des opinions sur le pays dans lequel ils vivent. Lorsque nous envoyons un ambassadeur dans un pays, il se fera non seulement une opinion sur ce qu'il verra, mais il va sans dire qu'il devra aussi faire un rapport à son pays d'origine. À propos de ce qu'il aura noté, cela fait partie de sa tâche. Il aura donc certaines opinions, mais il ne les exprimera pas publiquement. Et bien entendu, il n'exercera aucune pression sur ce pays. Il se limitera à faire des rapports au pays d'origine qu'il représente. La tâche d'un ambassadeur n'est pas aisée, car il doit souvent tenir sa langue. Il doit être très prudent. Il doit parfois sourire même s'il n'en a aucune envie. De plus, tout en représentant son pays d'origine, il lui faut néanmoins traiter avec le pays d'accueil de manière honnête. Étant conscient de tout cela, pourquoi voudrions-nous transformer ou réformer le monde de Satan maintenant? C'est une question qui a été posée à nos jeunes campeurs la semaine dernière. Sommes-nous ici pour transformer ou réformer ce monde? Ou sommes-nous ici pour être des exemples d'un monde différent? Voilà assurément quelque chose que chacun d'entre nous doit savoir. Cela ne concerne donc pas uniquement nos jeunes gens, mais plus encore, dans de nombreux cas, ceux d'entre nous qui sont plus âgés. Nous avons en effet beaucoup de gens qui se laissent piéger par un tas d'idées charnelles, des idées mondaines qui n'auront pas l'approbation de Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour les libertés dont nous jouissons, par exemple la liberté de religion ou la liberté d'expression. À propos, pensez-vous que la liberté d'expression ou que la liberté de religion sont des concepts approuvés par la Bible? Eh bien non. Selon les Écritures, après le retour du Christ, il n'y aura pas de liberté de religion. Ainsi, à l'époque de la nation d'Israël, il ne devait pas y avoir de liberté de religion. Hélas, ils ne se sont pas pliés à cette directive. Et voyez ce qui leur est arrivé. Cela dit, je suis content que nous, qui sommes assujettis à un gouvernement humain, ayons la liberté de religion, de même que la liberté d'expression, parce que c'est une bonne chose pour l'œuvre que nous accomplissons. Mais Dans le royaume de Dieu, aurons-nous la liberté de parole pour maudire nos parents, ou de nous livrer à la pornographie, et de prononcer des paroles obscènes? Pourrons-nous maudire les dirigeants durant le millénium? Pas selon la Bible. Ainsi, même si nous apprécions certaines libertés que nous avons présentement, restons très vigilants pour ne pas nous laisser piéger par certaines mauvaises pratiques qui ont cours dans notre monde actuel. Par exemple, ici aux États-Unis, le deuxième amendement nous accorde le droit de porter une arme. Eh bien, il y a des gens qui vont se laisser tenter par cette idée, et ils tomberont dans le panneau. Pouvons-nous, ne serait-ce qu'un instant, considérer l'option de porter une arme? Non, bien sûr. Vous savez qu'il est louable d'être un bon voisin. C'est bien d'aider votre prochain, d'être capable de combler un besoin quand l'occasion vous en est donnée. Par contre, lorsque nous risquons de nous laisser entraîner dans des mouvements qui agitent les foules, il est bon de faire attention et de ne pas se laisser prendre au piège parce que Satan est toujours à l'affût d'une opportunité pour nous détourner du droit chemin. Ne devenez pas victime de ses ruses. Voilà pour la première question que je tenais à vous poser. Ai-je la foi de croire en Jean chapitre 18 verset 36? Et voici déjà la deuxième question. Ai-je la foi de croire en Éphésiens chapitre 1 verset 22? C'est là encore une question de la plus grande importance. Tournons-nous donc vers Éphésiens chapitre 1 au verset 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dr. Meredith faisait référence à cela de temps en temps, et c'est évidemment très important. Paul dit ici que Jésus est le chef de l'Église, la tête de l'Église qui est son corps, et il va sans dire que la tête contrôle le reste du corps. Tout cela est facile à accepter intellectuellement, du moins jusqu'à ce que nous ayons un désaccord, et qu'on mette alors ce concept en doute. Les anciens parmi nous se souviendront que M. Armstrong a souvent avoué qu'il avait fait des centaines d'erreurs, et je sais que Dr. Meredith ressentait la même chose, et il en est de même en ce qui me concerne. Je n'ai peut-être pas été en fonction assez longtemps pour faire des centaines d'erreurs, même si certains peuvent le penser. Mais donnez-moi assez de temps et je suis persuadé que je ferai autant d'erreurs que mes prédécesseurs, sinon plus. Vous savez, j'étais en charge des camps d'été pour nos jeunes pendant de nombreuses années, près de 25 ans, je crois. Ainsi, j'ai d'abord travaillé à Orr, au Minnesota, puis à Big Sandy, au Texas. Ensuite, un an à l'époque de l'Église globale, et enfin, à diverses occasions, dans l'Église du Dieu vivant. À un moment donné, j'ai même eu l'occasion de diriger un camp d'été en Europe. Lorsque j'avais ainsi la responsabilité de diriger un camp, je disais clairement à tous les membres du personnel, aux conseillers, aux moniteurs et autres personnes aidantes, que nous allons tous parfois faire quelques erreurs. C'est inévitable. Et nous en sommes conscients. Cependant, vous ne ferez pas autant d'erreurs que moi qui travaille sur ce projet depuis des mois. Mais je me suis aussi empressé de faire comprendre à tout le personnel aidant que lorsqu'une directive claire est émise, lorsqu'on vous dit de ne pas faire telle ou telle chose, et que vous allez à l'encontre de cela, nous allons perdre confiance en vous. Par exemple, lorsqu'un membre de notre personnel, qui faisait partie de l'équipe de canoë, a décidé d'aller dans une zone du lac où nous lui avions dit clairement de ne pas aller, cela était une flagrante violation de cette directive. Nous avions aussi ce type à Orr, au Minnesota, à qui l'on avait dit de ne pas descendre la rivière à certains endroits où l'on rencontrait des chutes et des rapides, mais de faire du portage autour de ces zones. Eh bien, il a décidé de passer outre ces directives, et il en a résulté que plusieurs de nos canoës ont alors chaviré, causant du même coup la perte de beaucoup de matériel. Peut-on travailler avec une personne si celle-ci fait fi des directives qui ont pourtant été clairement énoncées? Nous allons en faire des erreurs, certes. Nous en ferons tous. Mais tâchons de ne pas enfreindre des directives claires. Nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1 que Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Croyons-nous qu'il va diriger son Église? Ou aurions-nous soudainement cessé d'être son Église pour avoir quitté le droit chemin, comme l'Église universelle l'a fait à un moment donné? M. Armstrong a toujours maintenu que Dieu ne lui a jamais permis de faire une erreur qui aurait conduit l'Église à sa perte. Cela dit, certains diront que le fait de nommer M. Tekach pour lui succéder était assurément une grave erreur. Mais n'était-ce pas pour Dieu une façon de nettoyer l'Église d'une quantité de bois morts? Il s'est trouvé en effet beaucoup trop de gens qui n'avaient pas fait leurs preuves ou qui s'étaient écartés du droit chemin. Pour eux, l'Église était devenue un club social. Elle avait perdu de vue l'œuvre que Dieu lui avait donnée d'accomplir. Voilà pourquoi Dieu a procédé à un nettoyage au milieu d'elle. Ce n'était donc pas une erreur. Dieu avait une bonne raison d'agir ainsi. Colossiens 1, versets 15 et 16 attestent bien que Christ est le chef de l'Église. Voyons-le. Colossiens 1, versets 15 et 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Fantastique. De qui parle-t-on ici? Il y est question de Jésus-Christ, qui a créé tout ce qui est visible et invisible. Quelle est notre attitude face à la création qui nous entoure? M. Ames et moi avons tous deux cité Bill Bryson dans A Short History of Nearly Everything, une courte histoire de presque tout, où l'auteur parle de l'improbabilité de la vie. Il y parle notamment de notre corps humain, où il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de types de protéines différentes. Tout notre corps est composé de protéines, lesquelles sont comme autant de petites machines, parce que c'est ce qu'elles sont. Elles sont ou bien la machine elle-même, ou bien elles font partie d'une machine. Et il y en a notamment une protéine qui tourne à la vitesse d'une hélice d'avion, qui sépare l'ADN en deux brins différents, tandis qu'une autre protéine les copie. Et toutes ces machines étonnantes tournent sans cesse dans notre corps, sans que nous en ayons conscience. Je suis en train de lire le prochain livre de Bill Bryson, intitulé tout simplement « Le corps ». Et vous savez, dans son premier livre, il aborde le cas qui se présente lorsque vous voulez seulement assembler 200 lettres de l'alphabet pour en arriver à une courte phrase particulière. Si vous sortiez 200 lettres de l'alphabet d'un grand sac qui en contiendrait une multitude, si vous les sortiez une à une, au hasard, en les alignant devant vous, quelle serait la probabilité d'en arriver à la phrase en question? Eh bien, la probabilité d'en arriver à cet exploit serait de l'ordre de 1 chance sur 1 suivi de 260 zéros. Incroyable! Et pourtant, cela ne mènerait qu'à l'assemblage d'une protéine de taille moyenne. Pensez à présent à une protéine commune comme le collagène, qui regroupe 1055 acides aminés. Imaginez un peu l'extrême improbabilité qu'une telle protéine se forme par le simple jeu du hasard. Dans l'exemple précédent, il n'y avait que 200 éléments à assembler d'une façon aléatoire, et voyez combien insignifiante était la chance de parvenir au but. À présent, avec 1055 éléments, c'est carrément impensable. Mais dans son dernier livre, Bryson évoque brièvement la plus grande protéine de notre corps. Combien d'acides aminés pensez-vous que celle-ci contient? Eh bien, elle en contient près de 190 000. Quelles sont les chances qu'une telle chose se forme par l'effet du hasard? Vous savez, notre corps est une création merveilleuse, admirable. Et je ne cesse de me demander comment Dieu a-t-il pu faire cela? Oh, je ne doute pas un instant qu'il l'ait fait. J'en suis absolument persuadé. Je suis juste étonné parce que, comme le dit Bryson, on pourrait former un groupe avec les personnes les plus intelligentes de notre monde actuel, des scientifiques qui disposeraient de tout le fonds de connaissances qui nous est connu, et il ne pourrait même pas reproduire la plus simple des cellules. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est grand, et il a tout accompli par Jésus-Christ. Comment pourrions-nous alors douter que Christ soit capable de diriger son Église? Il est dit ici au verset 18, Colossiens 1, verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Notez qu'il est dit clairement qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est celui dont il est dit qu'il a fait toutes ces choses, les visibles et les invisibles, tout ce qui est là dans l'univers. Tout vient de lui. Et Paul, sous l'inspiration divine, nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Puis, au verset 24 du même chapitre, Paul ajoute « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Christ dirige son Église, il est son chef. Rendons-nous maintenant à Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Il y a là un passage qui suscite beaucoup de controverses, et c'est pourquoi, lorsque nous l'abordons, nous commençons toujours par expliquer ce que ce passage ne veut pas dire. C'est que, manifestement, nous sommes ici en présence d'une mauvaise traduction. Colossiens 2, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. » On devrait plutôt lire « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, qui sont l'ombre de choses à venir. Mais que ce soit le corps de Christ, l'Église, qui vous juge sur de telles choses. » C'est en effet ce qui se passait à l'époque dans l'église de Colosse. Certains prétendaient qu'il ne fallait pas manger ceci ou boire cela, en particulier à l'occasion d'une nouvelle lune, d'un sabbat ou d'un jour saint. Ces jours-là devraient nous inviter à la contemplation et à la sobriété. Nous ne connaissons pas tous les détails de ce qui suscitait une controverse chez eux, mais nous savons qu'ils s'orientaient alors vers un concept pré-gnostique d'ascétisme. Et nous le savons en raison de ce qui est dit au verset 18, Colossiens 2, verset 18, « Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. » Ceci a rapport à une certaine forme de gnosticisme. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ensuite, au verset 21, il est question des principes élémentaires ou rudiments de ce monde. « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Ainsi, il y avait des individus qui s'introduisaient parmi les Colossiens et qui essayaient de leur dicter le comportement à adopter, en certaines circonstances, et ce, contrairement à ce que Paul avait déjà enseigné. Vous savez, au début de la crise de COVID-19, en mars dernier, nous avions réuni les membres du Conseil des Anciens. Nous avions aussi prévu d'avoir une conférence générale des ministres vers la mi-mars, mais nous avons dû annuler celle-ci à la dernière minute. Et je suis heureux que nous l'ayons fait, parce que les choses se sont rapidement détériorées par la suite. Ce fut cependant une bonne chose que nous ayons tout annulé à la dernière minute, car cela nous a permis de négocier sur un meilleur pied avec les différents organismes qui devaient assurer notre transport, notre hébergement, etc. Si nous avions annulé plus tôt, nous aurions probablement été soumis à de lourdes pénalités, car nous aurions été tenus responsables de notre choix et n'aurions pas pu nous appuyer sur les restrictions gouvernementales pour notre défense. À l'époque où ceci eut lieu, à moins que ce ne fût à l'occasion d'une réunion subséquente, M. Richard Ames avait émis un commentaire qui m'est resté en mémoire. Il avait alors déclaré « Cette crise sera un test de la foi du peuple de Dieu, de l'Église. Elle va montrer si le peuple de Dieu est convaincu que Christ est le chef de l'Église. » De toute évidence, M. Ames était en mesure de percevoir cela. Ses paroles avaient une sorte de portée prophétique. Je ne veux pas dire qu'il est un prophète, mais il percevait certaines choses, comme ce fut d'ailleurs le cas d'autres personnes. C'est parce que lorsqu'on est confronté à une crise, des décisions doivent être prises, et parfois, elles doivent être prises rapidement. D'ailleurs, il peut arriver que ces décisions doivent changer en fonction des circonstances. Merci à vous, frères et sœurs, d'avoir été patients avec nous, car nous avons effectivement dû faire quantité d'ajustements en cours de route. Vous savez, alors que la fête approchait, nous avons vite compris que si ce coronavirus restait présent parmi nous, nous serions soumis à toutes sortes de réglementations gouvernementales, que certains sites seraient fermés et que d'autres devraient se plier à toutes sortes de réglementations contraignantes. Aussi, nous avons heureusement décidé de multiplier les sites de fête, afin que, si quelqu'un tombait malade durant la fête, il puisse rapidement regagner son domicile. Il est vrai qu'au début, nous n'étions pas tout à fait conscients du bien fondé d'une pareille décision. Par ailleurs, ici aux États-Unis, certains États se mirent à refuser aux ressortissants d'autres États de venir chez eux. Cela dit, les choses peuvent encore changer d'ici à la fête, mais nous devons faire preuve de prévoyance et nous montrer prudents pour être capables de faire face à toutes sortes de défis de dernière minute. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. Et vous savez, certains n'étaient pas d'accord avec cette décision, parce qu'ils pensaient que nous allions pouvoir observer la fête comme nous l'avons toujours fait. Eh bien, ceux qui ont adopté cette façon de penser ont alors dû se démener pour essayer d'arranger les choses au dernier moment. Si nous croyons que Jésus est le chef de l'Église, pourquoi avons-nous des différends quant à la façon d'observer la fête cette année, ou au sujet des masques, des chants, ou de la pertinence de tenir des camps de vacances? J'ai reçu quelques courriels de personnes qui se questionnaient quant à la pertinence d'avoir des camps d'été pour nos jeunes cette année. « Voyez ce qui se passe au Texas, » me disait-il. Bon, je ne critique pas ceux qui m'ont écrit à ce sujet. Je sais qu'au moins une personne était vraiment inquiète. Elle avait des parents qui y allaient et était très inquiète pour sa famille. Et nous avons alors échangé des lettres de la manière la plus cordiale. Je ne critique pas une personne pour le fait de poser une question. Hélas, tous les courriels n'étaient pas aussi diplomatiques ou ne provenaient pas d'une attitude aussi humble. Mais il y aura toujours des situations où l'on se demandera que faire. Réponse, on prêtera l'oreille à des conseils judicieux. On consultera soigneusement les Écritures pour savoir ce qu'elles révèlent sur le sujet. Voyons maintenant Deutéronome chapitre 17, où se trouve un principe qui m'apparaît vraiment important pour nous. Je sais, ceci est dans l'Ancien Testament, et nous passerons au Nouveau dans quelques instants. Voyons donc Deutéronome 17, verset 8. « Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger, et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. » Cela dit, avons-nous des points de controverse ici aux États-Unis? Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, mais il est évident qu'ici, aux États-Unis, nous nageons dans les controverses. C'est déroutant et il y a tellement de politique mêlée à tout cela que je vais me contenter de dire ceci. Un tas de questions me parviennent auxquelles je ne peux répondre, mais je sais que nous devons prendre des décisions. Nous avons des gens dans l'Église qui n'iront pas à la fête si les membres qui viennent aux assemblées ne portent pas de masque. Inversement, il y a ceux qui n'iront pas à la fête s'ils doivent porter un masque. C'est drôle, parce que jadis, avant d'avoir été appelé, lorsque ces mêmes personnes fêtaient Halloween, le port d'un masque ne les dérangeait pas. Vous pouvez être sûr que, durant la Première Guerre mondiale, les soldats qui étaient terrés dans les tranchées ne voyaient sûrement aucun inconvénient à devoir porter un masque à gaz en cas d'attaque chimique. Vous savez, c'est incroyable comme le monde nous influence, même nous dans l'Église, en particulier lorsqu'il s'agit de politique. Je ne sais pas si c'est aussi le cas dans d'autres pays, mais chez nous, aux États-Unis, les gens sont tellement polarisés dans ce domaine que lorsqu'ils entrent dans l'Église, ils ne veulent pas démordre de leurs opinions. Dans Deutéronome 17, verset 8, il est question de différends, de contestations. Vous savez, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des controverses, car Dieu accorde à chacun de nous une individualité particulière. On entend parfois dire qu'au sein du conseil des anciens règne la controverse. En fait, il y a très peu de controverses au sein du conseil des anciens, mais on y exprimera différentes opinions, et nous nous efforcerons alors de rechercher la vérité et de parvenir à la meilleure compréhension sur le sujet qui est débattu. La plupart du temps, nous finirons par y voir clair. Mais, savez-vous, il m'est déjà arrivé de commencer une réunion du conseil en pensant une chose et d'en ressortir en pensant autre chose, parce qu'il y avait des aspects de la problématique que je n'avais pas considéré auparavant. Cela se produira parce que nous venons d'horizons différents, avec une compréhension particulière à propos de certaines choses. Quand nous avons 14, 15 ou 16 personnes ensemble, et que nous cumulons ainsi des décennies de sagesse accumulées dans l'Église, les choses iront bien, car selon la Bible, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ainsi, il y aura des sujets de controverse, et il est évident que les masques sont matière à controverse. Tout le monde ici porte un masque. J'en portais un avant de me présenter devant vous, et M. Wakefield en portait un, M. Strain de même. Chacun portait un masque avant de prendre la parole, et vous savez, c'est pour la sécurité de tous. Vous portez le masque pour vous protéger pendant que je vous parle et que je répands toutes sortes de micro-organismes. Et j'espère que vos masques fonctionneront un peu dans l'autre sens. Mais, à vrai dire, je ne sais pas à quel point tout cela est efficace. Il y a certains scientifiques qui nous disent que oui, mais ensuite, vous en trouvez d'autres qui ne sont pas si sûrs. Cependant, l'Église se doit de prendre une décision, et ce ne sera certainement pas à l'issue d'un vote. Nous rechercherons les conseils des meilleurs experts et prendrons une décision en nous conformant aux directives émises. Poursuivons au verset 9. « Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. » Ainsi, selon le genre de controverse, il devait aller soit vers les Lévites, soit vers le juge qui prononcerait alors un jugement. « Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. » Il y aura donc un lieu où résidera l'autorité en Israël. « Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. » Il faudra donc se plier aux directives émises par cette autorité. Verset 11. « Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. » Voilà à quel point les choses étaient prises au sérieux à cette époque-là. Et il ne faudrait pas rejeter ces directives du revers de la main, sous prétexte qu'elles s'appliquaient à l'ancien Israël, Israël physique. Tournons-nous maintenant vers le chapitre 15 du livre des Actes. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent fort bien quel type de controverse nous allons y trouver. Une controverse qui causa une grande division au sein de l'Église. Oh, il y avait là des individus tout à fait sincères, des individus qui, en toute bonne conscience, croyaient que vous deviez être circoncis lorsque vous étiez un homme. C'est là ce qu'on leur avait enseigné toute leur vie. Cela faisait partie de leur vécu. Je ne doute donc pas un instant de la sincérité de ces individus, d'autant plus qu'ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'appuyer sur les Écritures pour leur défense. J'y ai souvent pensé, parce qu'il y a effectivement des Écritures qui laissent à penser que pour être approuvé de Dieu, on doit être circoncis lorsqu'on est un homme. Je me demande ce que j'aurais fait si j'avais vécu au premier siècle de notre ère, là, à Jérusalem, avec le reste des anciens. Quel parti aurais-je pris? Et vous savez, me connaissant, j'aurais très bien pu faire le mauvais choix. J'ai souvent pensé que si j'avais vécu pendant la Révolution américaine, la guerre de sécession, connaissant ma façon de penser et de voir les choses, je me serais probablement réfugié au Canada. Oui, je serais probablement allé vers le nord avec les loyalistes. Oh, je sais que beaucoup d'autres sont restés au pays. Le fait est qu'il nous arrive de faire de mauvais choix dans la vie. Et vous savez, j'ai constaté avec du recul que plusieurs fois, lorsque j'étais persuadé d'avoir raison, c'est là que j'étais dans l'erreur. Nous devrions tous être capables de le reconnaître. Cela dit, n'allez pas croire maintenant que chaque fois que vous aurez une pensée, elles doivent nécessairement être erronées. Non, mais il y a des moments où nous pouvons effectivement nous tromper. Pour en revenir à Actes chapitre 15, nous avons donc ces anciens qui se réunissent à Jérusalem pour en arriver à un jugement sur une question controversée, dans le cas présent, le problème de la circoncision. Maintenant, si je me base sur ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, et sachant toute l'importance de la circoncision pour les Juifs de l'époque, cette controverse m'apparaît bien plus profonde que la question de savoir si je devrais porter un masque ou non. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Pensez-y. Ces gens étaient habitués à ces choses depuis le 8e jour de leur naissance. Cela faisait partie de leur vie. Cela faisait partie du judaïsme. On croyait alors qu'un mâle se devait d'être circoncis. Après qu'ils eurent consulté les Écritures et vu le nombre d'allusions faites à l'incirconcision de cœur, et il y a tant de passages qui en parlent, Pierre s'est finalement levé pour dire, verset 7, acte 15, verset 7, « Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Après que Pierre eut encore fait quelques autres déclarations, tout le monde s'était tu, excepté Barnabé et Paul, qui prirent alors la parole pour donner de bonnes nouvelles à propos de ce que Dieu accomplissait parmi eux. Après cela, Jacques, qui était l'évangéliste en charge à Jérusalem, le foyer originel de la controverse, qui s'était ensuite répandue ailleurs, Jacques donc se leva pour informer tous ceux qui étaient présents de sa décision finale. Est-ce que tout le monde s'est immédiatement rallié à cette décision? J'en doute. Mais je pense que ceux qui ne voulurent pas se rallier à cette décision finirent par s'éclipser. Vous savez, il y a des choses importantes dont nous devons nous souvenir. La foi s'exerce de différentes manières. Ainsi, il y a la foi de guérir, et certaines personnes vont manifester une grande foi dans ce domaine. Il y a la foi d'obéir à Dieu lorsque votre travail est menacé. J'ai connu des personnes qui ont eu à lutter pour développer leur foi de ce côté-là, mais elles ont fini par triompher. En dépit du risque de perdre leur emploi, elles ont fait leur part. Dieu a permis que certains perdent leur emploi. Quelques-uns ont ainsi été licenciés et dû aller travailler ailleurs, où ils n'avaient peut-être pas le même revenu. D'autres, Dieu les a bénis en leur offrant un emploi meilleur. Il faut aussi de la foi pour payer la dîme. Certaines personnes n'ont pas cette foi, du moins pas au début. Et puis, évidemment, il faut de la foi pour obéir lorsqu'on se fait menacer d'être jeté dans une fournaise ardente. Pensez au sort qui fut réservé aux trois amis de Daniel. On leur avait dit, « Obéissez au roi, ou nous vous jetterons dans une fournaise ardente. » Qu'auriez-vous fait à leur place? Ils ne pouvaient pas savoir ce que Dieu allait faire pour eux. Notez quelle fut leur réponse au roi Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Pas mal courageux de leur part, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu les a récompensés en opérant pour eux un miracle extraordinaire. Frères et sœurs, évitons de juger notre prochain en ce qui a trait à leur foi. Ainsi, lorsque quelqu'un tombe malade, allons-nous l'accuser de manquer de foi parce qu'il va rechercher de l'aide médicale? J'ai connu le cas d'une personne, en Floride, qui s'était fait une rupture de tendon. Et vous savez, un tendon, ça ne repousse pas comme un ongle, pas plus qu'il ne se rattache à son point d'ancrage. Dieu seul pourrait remettre les choses en place, mais on peut aussi recourir aux soins que la médecine peut nous prodiguer. J'ai entendu parler de gens qui ont été diagnostiqués avec un cancer et qui n'ont pas voulu se confier à la médecine des hommes. Eh bien, Dieu les a guéris. Dieu peut fort bien se passer de la médecine humaine. Mais supposons que quelqu'un consulte un médecin, accepte de subir une opération ou une chimiothérapie ou quelque chose de ce genre. Va-t-on alors accuser cette personne de manquer de foi? Peut-être que sa foi s'exprime d'une autre manière. Cessons de condamner quelqu'un pour les choix qu'il fait. Cela ne nous regarde pas. C'est une décision personnelle qu'il revient à chacun de prendre. Par ailleurs, va-t-on dire d'une personne qui pèse le pour et le contre lorsqu'elle est confrontée à un risque potentiel qu'elle manque de foi et Que dire de la recommandation de Proverbes chapitre 22, verset 3 ? Proverbes chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. A-t-on accusé une personne qui se conforme à cette directive qu'elle aussi manque de foi ? Eh bien, comment faut-il interpréter cette réplique de Jésus à Satan qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 7 ? Matthieu 4, verset 7. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Que dire d'une personne qui hésite à agir lorsqu'elle voit un danger à l'horizon ? Vous savez, certaines personnes sont prêtes à tout, et d'autres sont portées à faire preuve de retenue. Dieu peut honorer les deux individus. Il ne nous appartient pas d'accuser l'une d'être imprudente et l'autre de manquer de foi. Laissons à Dieu le soin de juger. Allons-nous dire d'une personne qui refuse de porter un masque qu'elle est trompée par une conspiration gouvernementale ? Ou dirons-nous qu'elle manque de foi parce qu'elle porte un masque, alors qu'elle ne cherche qu'à protéger son prochain dans la mesure du possible ? Allons-nous devenir l'Église de Dieu masquée ? Ou allons-nous devenir l'Église de Dieu non masquée ? J'espère bien que nous n'en viendrons pas jusque-là. Laissez-moi vous citer quelques avantages offerts par le port d'un masque. Ce sont là des points auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui me semblent indéniables. Donc, si vous êtes sceptique, écoutez-moi bien. Tout d'abord, vous ne serez pas obligé de vous maquiller si vous portez un masque, pas vrai ? Si vous êtes un adolescent et que vous êtes affligé par un problème d'acné, vous pouvez le couvrir avec votre masque. Voici une autre situation qui peut se présenter. Supposons que vous soyez à table et qu'après avoir mangé du brocoli, vous ayez un morceau de brocoli coincé entre vos dents de devant. Justement, cela me fait penser à cet article qui avait paru dans une revue, article où on relatait cet incident plutôt comique, à propos d'un gars qui, en revenant chez lui, après un rendez-vous avec une amie, constate avec stupeur qu'il avait un morceau de brocoli pris entre ses dents d'en avant. Pas étonnant que chaque fois qu'il souriait, son ami ne souriait pas. Eh bien, s'il avait porté un masque, il n'aurait pas connu ce désagrément. Voilà trois choses pour lesquelles on pourra dire que le port d'un masque vous sera d'un avantage indéniable. Oh, et puis vous savez, on peut tourner ça en rigolade si on veut. Il n'est pas nécessaire que le port du masque devienne matière à controverse. Vous pourriez impliquer vos enfants dans le jeu. D'accord, vous ferez le masque proprement dit, mais laissez-les choisir le tissu et surtout le type de décoration qui l'ornera. Quelqu'un, ici au bureau, m'a montré le masque qu'une de ses nièces avait choisi. Il représentait une citrouille. Dans certaines parties du monde, le port d'un masque est devenu chose courante. On le porte tout le temps. Pas seulement maintenant, en raison de la pandémie de coronavirus, mais tout le temps, à cause de la pollution, et pour toutes sortes d'autres raisons. Voyons à présent Romains chapitre 14, verset 1, un passage dont nous pouvons tous tirer profit. Romains 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Le contexte nous montre qu'il y avait de la controverse dans l'Église. Il y avait ceux qui ne voulaient pas manger de viande et ceux qui en mangeaient. Je me suis déjà prononcé contre le véganisme. Je devrais dire contre la religion du véganisme. Mais nous avons parmi nous des individus qui, pour une raison ou pour une autre, choisissent de ne pas manger de viande. Ils proviennent peut-être d'un milieu adventiste du septième jour, où ils avaient développé cette habitude avant de venir chez nous. Et, de ce fait, ils ne peuvent tout simplement pas se résoudre à avaler de la viande. Et c'est bien comme ça. D'ailleurs, Christ ne nous dit-il pas, par l'intermédiaire de ses apôtres, que nous ne devrions pas aller vers eux pour leur imposer telle ou telle chose ? En effet, ne venons-nous pas de lire, au verset 1, qu'il nous faut accueillir celui qui est faible dans la foi ? Maintenant, quand on dit « faible dans la foi », il faut comprendre « faible dans la foi » dans ce domaine particulier, celui que Paul va décrire ici. Cela ne veut pas dire que la personne sera faible dans la foi dans d'autres domaines. Cette personne peut être pleine de foi lorsqu'il s'agit d'attendre une guérison ou de payer la dîme, même si, a priori, la chose ne semble pas être faisable. Non, ici, Paul nous exhorte plutôt de ne pas avoir de disputes sur des choses triviales, des choses anodines. Cela dit, je me demande parfois si les masques procurent vraiment une protection efficace. Je n'en sais trop rien, mais ils ne peuvent pas faire de tort. D'ailleurs, il y a des gens qui portent des masques toute la journée dans les hôpitaux, que ce soit des infirmières, des médecins, du personnel d'entretien ou des gardiens de sécurité. Ils les portent toute la journée, jour après jour, et ils n'en meurent pas. Je sais que certains font valoir que le port du masque pourrait causer une pénurie d'oxygène chez certaines personnes. À celles-ci, on recommande alors de sortir périodiquement à l'air libre pour prendre quelques bonnes bouffées d'air frais. C'est là une chose faisable. Romains, chapitre 14, versets 2 à 5. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ce passage peut vous sembler un peu compliqué, parce qu'il vous laisse sur l'impression que vous pouvez observer n'importe quel jour de la semaine pour adorer Dieu. Nous estimons que ce doit être le samedi. D'autres estiment que ce doit être le dimanche. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Le contexte de ce chapitre indique que la controverse portait sur ce que vous mangiez, et aussi, en partie, sur le fait que certains craignaient que la viande achetée au marché aurait pu avoir été offerte au préalable à une idole, du moins certains jours. C'est là ce que nous pensons, nous, de l'Église du Dieu vivant. Donc, en résumé, il ne faut pas déduire de ce passage que nous sommes libres d'adorer le jour de notre choix. Cela mènerait à la confusion. On ne voudrait tout de même pas faire comme l'empereur qui livrait un culte au soleil. Cela entrerait en contradiction avec tout le reste des Écritures. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Puis, plus loin, au verset 13 et 14, nous lisons, « Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Voilà pourquoi certaines personnes s'imaginent qu'elles peuvent se permettre de manger ce que bon leur semble. Dans le grec originel, le mot traduit ici par « impur » signifie « cérémoniellement impur ». Faisant ainsi référence à la façon de traiter quelque chose au marché. La chose avait-elle été offerte à une idole? Avait-elle été proprement vidée de son sang? Ce genre de choses. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Puis au verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu, ne détruis pas ce que Dieu accomplit sous le couvert d'arguments contestables. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Versets 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous savez, le plus grand danger qui guette l'Église du Dieu vivant à l'heure actuelle ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et il en est de même en ce qui concerne notre nation, les États-Unis. Et la raison en est qu'il y a un esprit maléfique qui veut détruire cette œuvre, et cela juste au moment où elle commence vraiment à prendre son envol. Je vais vous en parler dans un instant. Proverbes, chapitre 6, verset 16. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Puis, à la fin du verset 19, et celui qui excite des querelles entre frères. Oui, c'est là une chose que Dieu déteste. Donc, quand nous nous rendrons aux assemblées et qu'il se présentera quelqu'un avec un agenda bien défini dans le but de rallier des gens à sa cause, soyez sur vos gardes, surtout si ce qu'il dit n'est pas conforme aux enseignements de l'Église. Vous savez, durant nos camps d'été, M. Monson disait aux jeunes qu'il supervisait que leur rôle à l'heure actuelle était de donner l'exemple, d'être une lumière pour leur entourage. Et c'est tellement vrai. Et nous y parviendrons par notre façon de vivre. Le bon exemple que nous aurons montré aux gens leur reviendra en mémoire lorsqu'ils seront ressuscités, à moins que Dieu ne leur ouvre l'esprit avant la fin de cet âge. Je connais un homme qui est à présent un pasteur, et cela principalement en raison de la bonne influence que son meilleur ami au lycée exerça sur lui, non par des mots, mais par l'exemple. Oh, bien sûr, ils ont dû aussi avoir quelques conversations. Donc, ces choses arrivent. Mais même si ce n'est pas le cas, lorsque Christ reviendra au début du millénaire, s'ils survivent jusque-là, ou encore s'ils reviennent à la seconde résurrection, ils se souviendront de vous. Notez à présent Jean chapitre 4, verset 34, où Jésus dévoile ce qui est vraiment important pour lui. Jean 4, versets 34 à 36. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous savez, frères et sœurs, nous semons et nous récoltons. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont semé avant que je ne vienne à l'Église vers le milieu du XXe siècle, alors que l'œuvre répandait ce message. Certes, dans la région où j'habitais, entre San Francisco et Los Angeles, il n'était pas aisé à l'époque de capter nos émissions radiophoniques. Et lorsqu'on y parvenait, il fallait s'accommoder d'un signal chargé de parasites. En fin de compte, le frère d'un de mes amis a fini par connaître la vérité, et c'est ainsi que je fus moi-même introduit à elle. Je me souviens encore de mes premières expériences. Comment j'étais là à écouter l'émission qui passait à la radio, avec toujours une main sur le cadran, parce que je ne voulais pas me faire surprendre par mes parents. Nous avions alors un plancher de béton avec de la moquette, ce qui m'aurait empêché d'entendre venir mes parents. Cela m'aurait beaucoup gêné de me faire surprendre à écouter ce message religieux, et c'est pourquoi je gardais constamment mon doigt sur le cadran, prêt à couper le son en cas de besoin ou à changer de poste. De plus, lorsque j'étais à l'écoute, je maintenais toujours le volume aussi bas que possible. À l'époque, j'avais encore le Wi-Fin. Il faut préciser que le signal radio que nous recevions n'était vraiment pas fort. Mais, malgré tout, il en a résulté que 8 personnes sont finalement venues à l'église, exclusivement des adolescents. Je pense être le seul survivant de ce groupe. Dieu travaillait avec ces jeunes par le biais d'un signal de piètre qualité, mais nous nous sommes serrés les coudes et avons gardé un contact continu par la suite. Vous savez, notre exemple peut être très important pour ceux qui nous entourent. Et j'espère que tout ce que vous avez appris de vos moniteurs du camp d'été vous restera. Espérons que tous nos membres à travers le monde reconnaîtront les moments difficiles que nous traversons et resteront solidaires les uns des autres afin que nous formions une bonne équipe. Lisez Éphésiens 4 qui montre comment atteindre l'unité dans l'Église. Je ne vais pas m'y reporter par manque de temps, mais lisez notamment Éphésiens 4, verset 11, où Dieu nous montre comment il se sert du ministère pour nous garder unis, afin d'éviter que chacun ne prenne telle ou telle tangente. Vous savez, Satan déteste nous voir poursuivre ce genre d'objectif, et il s'efforcera par tous les moyens de nous diviser. Il veut que nous ayons des querelles entre nous. Frères et sœurs, ne lui permettons pas de nous diviser. Restons groupés autour de Jésus-Christ, la tête de l'Église. J'aimerais maintenant vous montrer brièvement quelques-unes des choses positives qui se déroulent dans l'œuvre de Dieu. Au cours des annonces, on a mentionné certaines chaînes de télévision et j'aimerais maintenant apporter quelques précisions additionnelles. Vous rendez-vous compte que, d'ici à la fin du mois de septembre, 14 nouvelles stations de télévision vont s'ouvrir à nous, ici aux États-Unis. Ce seront Atlanta, en Géorgie, Lansing, au Michigan, et Lexington, au Kentucky. Nous ajouterons aussi un deuxième créneau horaire sur le réseau national de WGN. Par ailleurs, demain, nous allons être sur Zed Living, un autre réseau de distribution nationale. Et puis, il y aura aussi Salt Lake City, Cincinnati, Miami, Fort Lauderdale. Peut-être deux couvertures à Milwaukee. Nous verrons si nous les conserverons toutes les deux ou seulement l'une d'entre elles, voire aucune. Faudra surveiller leur efficacité. Il y aura aussi Dallas-Fort Worth, au Texas, un grand marché, et puis Springfield dans l'Illinois. Par ailleurs, fin septembre, il s'ajoutera aussi le réseau CW Plus le mardi, ainsi que le CW Plus le mercredi. À noter que nous avons déjà une présence sur CW Plus, où nous obtenons des résultats formidables. Mais nous avons pu négocier de nouveaux créneaux horaires chez eux, et nous espérons pouvoir ainsi rejoindre un public légèrement différent. Rien que durant la semaine du 14 au 21 juillet, notre service de traitement du courrier, ici à Charlotte, nous informe que nous avons ajouté 4390 nouveaux abonnés à notre revue. Certes, nous allons perdre quelques-uns de nos abonnés, mais nous allons ajouter toutes ces nouvelles personnes. Et il est possible que certains de ces nouveaux abonnés représentent en fait des familles. Parlons aussi de notre cours d'études bibliques. Là encore, une forte croissance de la demande. Pour ce qui est de la première leçon, durant les 3 semaines du 1er au 21 juillet, nous avons envoyé 9063 exemplaires de cette leçon. Et il y a encore 3000 autres demandes dans notre base de données, et je suppose qu'elles seront acheminées incessamment. Et puis, il y a nos émissions télévisées en espagnol, El Mundo de Mañana, qui sont disponibles sur YouTube. Elles sont très appréciées par les gens d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que par des gens ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde, comme au Canada. Partout, finalement, où nous avons des hispanophones. Deux de nos émissions de la série El Mundo de Mañana ont été visionnées par plus de 2,2 millions de personnes. Une autre a été suivie par 1,8 million de spectateurs, une autre par 1,5 million et 7 autres par plus d'un million. Une émission qui me passionne tout particulièrement est l'émission de M. Richard Ames, qui a pour titre « Du sabbat au dimanche ». Elle a déjà été visionnée par plus de 957 000 téléspectateurs, et je suis sûr qu'elle recueillera plus d'un million de vues d'ici peu. C'est une émission dont l'importance est grande, et elle est accompagnée d'une brochure tout aussi importante qui est offerte aux auditeurs. Espérons qu'ils la demanderont et la liront. Comme nous l'avons entendu dans les annonces d'aujourd'hui, au Canada, plus précisément au Québec francophone, nous sommes passés à une nouvelle station de télévision, ici, qui nous offre un meilleur créneau horaire à seulement 40% du coût que nous devions payer sur VTélé. Au lieu que nos émissions passent à 6 heures du matin, nous pouvons à présent les regarder à 9 heures du matin. Toujours au Canada, mais cette fois-ci en anglais, nous avons aussi souscrit à une chaîne de portée nationale appelée YES. Ce qui est intéressant, c'est que cette station est offerte en primeur à tous les abonnés du câble, sans que ceux-ci aient à recourir à une extension de service, ce qui ajouterait des coûts. Toujours au Canada, nous notons cette année une augmentation considérable pour le cours d'étude de la Bible. De fait, nous avons déjà reçu plus de 1800 demandes, ce qui est plus que pour l'ensemble des années 2018 et 2019 réunies. Imaginez un peu. En moins de 7 mois, nous avons reçu plus de demandes pour le cours d'études bibliques que durant les 2 années précédentes. Incroyable. Au Royaume-Uni, nous recevons également beaucoup de demandes pour ce même cours d'études bibliques. En Allemagne, M. Desimone, M. Franz Böhme et M. Adrian Käfer, qui a été récemment ordonné, travaillent ensemble sur leur site web particulier et essaient de produire vraiment plus en langue allemande. Il faut dire que M. Käfer a fait tout le travail préparatoire depuis longtemps. Il a traduit des brochures, des revues et beaucoup de choses, et nous sommes maintenant prêts à faire un grand bond en avant dans cette branche de l'œuvre. Tout cela implique de vraies personnes. Et j'allais vous lire les commentaires de quelques personnes, mais par manque de temps, je me contenterai de vous dire que j'en ai reçu de l'État de Washington, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, des îles Cook, de l'Australie et de divers autres endroits dans le monde. Les gens sont enthousiastes et nous remercient pour la littérature que nous leur envoyons parce qu'elle est gratuite, ce qu'ils apprécient car ils n'auraient pas les moyens de payer pour un abonnement. Nous recevons aussi quelques commentaires qui ne sont pas enthousiastes et qui nous critiquent. C'est bien aussi car cela nous garde humbles. Dans Jean chapitre 4, verset 35, au milieu du verset, il est dit « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui, déjà, blanchissent pour la moisson. » Dans Romains, chapitre 13, verset 11, nous lisons « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » On dirait effectivement que la fin est proche, n'est-ce pas? Maintenant, quand je dis proche, je ne veux pas dire demain, mais nous serons étonnés de voir avec quelle vitesse notre pays va s'effondrer. C'est ce que la Bible révèle lorsqu'elle dit que cela arrivera soudainement. Pourtant, nous ne sommes même pas à 6 mois du début de cette crise de COVID-19 et voyez tous les dégâts qu'elle a déjà causés. La page couverture de notre revue Le Monde de demain de juillet-août 2020 met en vedette l'article intitulé « En pleine tempête », un article qui fut écrit avant le cas George Floyd et que nous ne pouvions donc pas mentionner dans cette édition particulière. Frères et sœurs, Dieu accomplit une grande œuvre ici-bas, une œuvre que Satan s'efforce vainement de détruire. Efforçons-nous par notre exemple d'être des lumières pour le monde. Ayons foi que Dieu est aux commandes de toute situation et que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église.